Bonsoir Marie-Madeleine, je savais que tu serais la première pour ce soir. J'espère que tu vas bien Marie-Madeleine en ce vendredi. Salut Stéphane, tu vas bien toi aussi? On va bientôt mettre la musique. Allez, un peu de musique avant le générique. Allez, c'est parti pour le générique. Eh bien voilà, nous y sommes, nous sommes ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 22 mai 2020, il est 18h30, c'est donc l'heure de votre rendez-vous lecture avec ce Facebook Live d'Exilium. Alors on commence à voir la fin, hein? On a encore aujourd'hui la dernière. Ben non, on a fini le chapitre 11 hier, qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, je vous lis l'intégralité du chapitre 12, qui est un chapitre, attention, très historique. On parle uniquement de l'abbaye de Noirlac. Je vous envoie faire un petit voyage quasiment 800 ans, plus de 800 ans en arrière. Dans la mesure où c'est un roman fantastique, bien évident, l'histoire s'est mélangée au fantastique. Toutes les références historiques sont authentiques, mais à vous de déterminer là où la part de fantastique se mêle. Voilà, tout est en lien avec l'abbaye de Noirlac. Je préfère vous le dire, donc aujourd'hui il n'y aura pas de. Bon, on verra pas nos personnages principaux, hein. D'accord? Allez. Ceci dit, écoutez, comme tous les soirs, je vais commencer par le résumé de la lecture d'hier. Et puis ensuite, on se retrouve pour quelques petits mots et puis pour les salutations d'usage. Ça marche? Allez, à tout de suite. Et moi, je chausse les lunettes. Résumé de la lecture précédente. La conversation avec l'abbé est d'une extraordinaire richesse. Frédéric va de surprise en surprise, à la fois sur la nature des légatis, leur génétique, leur mode de communication, et sur le fait que son affectation comme meneur est le fruit en fait d'une longue observation de la part de plusieurs générations de légatis. L'abbé n'a pas choisi par hasard l'abbaye de Noirlac comme lieu pour communiquer toutes ses informations. La bâtisse a jadis été un refuge pour les légatis, et l'abbé est sur le point de compter sa fondation, avant même que le premier mur n'apparaisse. Exilium, livre 1, chapitre 12, 1150. Maison Dieu sur chair, Bruère, 1150 après Jésus-Christ. À Bourges, On murmure que vous bénissez les meneux de loup et le Legatus en exil. L'orage avait transformé le jeune homme barbu et amaigri en fontaine ruisselante. Son baluchon de fortune et ses vêtements déchirés inspiraient la compassion et paraissaient témoigner d'une fuite brutale, comme s'il avait été chassé de chez lui. À contre-jour, les violents éclairs dessinaient la silhouette d'un homme épuisé. Face à lui, les 12 moines l'observaient sans porter un quelconque jugement sur sa vêture. Tous attablés près du feu dans leur provisoire abri de planches grossières recouvertes par la tourbe, au seul son du crépitement des braises. Celui qui paraissait détenir l'autorité sur les 11 interrogea le jeune homme plutôt que lui répondre directement. « Tu parais bien faible, visiteur. Comment es-tu venu jusqu'ici ?»« J'ai suivi les traces de mes frères de chair. Je sais qu'ils sont ici, en sécurité. »« Et peux-tu nous dire qui sont tes frères ?» Le temps d'un nouvel éclair, les yeux du visiteur devinrent blancs comme le kaolin et brillants comme la nouvelle lune, jusqu'à laisser dans l'embrasure de la porte une vision qui en d'autres circonstances aurait engagé un procès en sorcellerie. L'instant d'après, le visiteur retrouva un regard commun. Les occupants du logis échangèrent en silence un sourire de joie communicatif, puis le moine offrit son hospitalité au nom du groupe. « Ainsi, Bourges nous craint déjà. Sois le bienvenu, visiteur, toi que le Seigneur a privilégié. » Viens partager notre pain. Tes frères de chair te seront présentés lorsque tu auras recouvré tes forces. La promesse de don venait enfin d'aboutir. Le sceau qui validait le transfert de patrimoine de la seigneurie bourguignonne de Charenton vers la communauté de Clers était enfin apposé. Une attente de plus de 15 ans venait d'être récompensée. La construction de l'abbaye était désormais assurée et les légatis allaient bénéficier d'un refuge et d'un bassin d'attache. Installés près du bois à quelques centaines de mètres du Cher, entre Bruère et Saint-Amand-Montrond, le petit groupe initial de 12 moines colons était guidé par le père abbé Robert. Ce dernier était le fils du seigneur de Châtillon au Don le Roux et cousin de Bernard de Fontaine, lui-même abbé de la grande abbaye de Clairvaux en Bourgogne, d'où était d'ailleurs issue la communauté. Prendre la tête de ces 11 hommes de foi ne lui faisait pas peur, lui qui avait l'expérience de la direction des abbayes de Cluny et Clairvaux. Mais sa réelle et innovante motivation conféré à cette énième mission d'essaimage du christianisme un statut singulier et bien gardé par les colons. Même Clairvaux, l'abbaye mère, n'en saurait rien. Une unique règle fut appliquée pour assurer la réussite de la mission, ne jamais évoquer le Legatus. Bernard, le cousin de Robert, était quant à lui un fin stratège politique. Sans son sens aigu des tractations et de la diplomatie, l'extension à un niveau national de l'ordre religieux qu'il incarnait n'aurait jamais pu prendre une telle dimension. Devenu une personnalité influente dans les affaires publiques, il finit par défendre les droits de l'Église contre les princes temporels et s'offrit même le luxe de conseiller les papes. Robert n'aurait donc pu trouver mieux que son cousin pour accélérer la fondation de l'abbaye refuge. Mais il était hors de question de lui parler des légatis, ces suppôts du malin, cette vilenie diabolique auquel le Seigneur refusait la grâce. L'étranger était toujours regardé de travers. Robert savait que l'intégration et le développement des activités de ses frères dans le paysage saint-amandois passait avant tout par d'excellentes relations humaines avec la seigneurie locale. Il ne négligea donc pas de rappeler que Dieu n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui sont généreux avec ses ambassadeurs. Et ça tombait bien. Le village de Charenton, centre domanial que la situation géographique placée en position d'étape naturelle parfaite pour les voyageurs qui circulaient entre la vallée du Cher et celle de la Loire, était aussi le pivot économique de la seigneurie charentonnaise. Cette seigneurie comprenait les fiefs d'Orval, de Bruyères, du castel de Saint-Amand, d'Épineuil et de Meillan. Charenton avait donc tout pour propulser les fondations de la nouvelle abbaye. Des rumeurs affirmaient que la forêt de Meillan était déjà le théâtre de regroupement de légatis les soirs de pleine lune. Oh, aucun villageois n'osait s'y aventurer, par peur d'être atteint du grand mal envoyé par le diable. Du moins, pour les plus chanceux qui n'auraient pas fini dévorés. Si elle n'était pas la plus puissante au niveau national, la seigneurie de Charenton tirait orgueil de ses signes extérieurs de richesse. Des châteaux avec donjons, un droit de justice, un droit d'affranchissement, sans compter des revenus propres pour bâtir et entretenir des bâtiments religieux ou des maisons de soins, et le contrôle des voies de passage également. Et pour couronner le tout, un sceau exclusif et un nom transmissible, Ebe. Robert de Châtillon n'avait pas tapé au hasard en choisissant Bruyères comme nouveau site d'installation pour l'abbaye. Il savait ce qu'il allait trouver. Il savait aussi qui il allait rencontrer. Et faisait confiance à son sens de la négociation pour s'attirer les faveurs de la noblesse locale. Oh, bien entendu, les arrangements gardaient une aura de piété dans la mesure où le succès n'appartenait qu'à Dieu. Robert avait toutefois bien précisé à son cousin que seule l'omniprésence de bois dans les alentours de l'abbaye garantirait le calme propice à la méditation spirituelle. Une requête qui cachait bien entendu une volonté de pourvoir à l'épanouissement de ce que le Seigneur avait privilégié. Robert affectionnait le site de la future abbaye, un véritable cadeau du ciel. Tous les bois qui s'étendaient depuis la lisière du massif du Troncé au sud, bien que sous le contrôle de la seigneurie bourbonnaise, jusqu'aux portes de Levée, au nord, faisaient du site l'emplacement choisi idéal. Un sanctuaire pour accueillir ceux qui n'auraient plus à fuir en permanence devant l'ignorance du commun peuple. Mais tout restait à faire. Une génération d'ouvriers devrait se mettre à l'œuvre pour assécher et défricher la mélasse marécageuse avant que la lumière ne sorte du néant. Un travail épuisant, mais nécessaire, qu'avait déjà commencé la communauté de frères convers du domaine de l'Ombré, très peu éloigné du site. Le secteur avait cependant attisé bien des discussions. La règle d'essaimage voulait que la future abbaye soit éloignée de tout et de tous, et s'autogère dans toutes ses activités. Pourtant, l'emplacement de la future abbaye était proche de la route qui menait de Bourges à Saint-Amand, ce qui impliquait que les voyageurs ne pouvaient pas ne pas remarquer le site. De plus, la règle prévoyait que 10 lieues, soit plus de 10 km, devaient séparer le site de toute agglomération. Or, Charenton, Saint-Amand, Bruyères, Orval et Nozières n'étaient qu'à quelques lieues. Une erreur de logistique? Oh non, une belle stratégie en vérité. Car avec une telle activité aux alentours, le site ne deviendrait jamais un lieu de pèlerinage ou de pause pour les voyageurs égarés. Seule une motivation bien personnelle pouvait en faire une destination favorite. Seuls des légatis viendraient frapper à la porte parce qu'ils savaient qui ils trouveraient derrière. Signe de la clairvoyance de l'abbé Robert de Clairvaux, 10 ans plus tôt, il s'était posé comme témoin des noces d'Ebe de Charenton avec une fille d'Archambault de Bourbon. Une cérémonie qui eut lieu dans le prieuré de Souvigny, fondé par les seigneurs de Bourbon. Une alliance par mariage qui permit d'ailleurs à la seigneurie charentonnaise de faire de celle des Bourbons un nouvel allié. Mais la cérémonie fut avant tout une opportunité pour Robert qui chargea de bénédictions la mariée pour mieux entamer les tractations qui allaient accélérer les fondations de l'abbaye. Une relation de confiance qui débouchera 10 ans plus tard sur le charitable don de patrimoine et en nature d'Eb pour le compte de la communauté. Un élan de générosité programmé qui, dans un premier temps, allait initier la construction dure, puisque jusqu'à maintenant, la communauté servait Dieu dans des bâtiments provisoires. Mais la générosité d'Eb s'était accompagnée d'une requête, celle de se faire inhumer, lui et ses descendants, dans les murs de l'abbaye, à la place du prieuré de Drevant. Robert fit là un sérieux encouragement à battre le fer pendant qu'il était encore chaud et entamer au plus rapide le démarrage du chantier. Les murs attendaient leur mort pendant que les légatis attendaient la sortie de terre de leur refuge. Également excellent comptable, Robert savait pourtant que le volume de donations du seigneur Eb s'avérerait à terme insuffisant pour couvrir les frais qui allaient être engagés dans les travaux de construction du complexe abbatial. Mais il comptait sur la générosité future des notables, qui sauraient fidéliser le moment venu. À commencer par le roi Louis VII, qui avait séjourné par deux fois à Bourges, et dont la libéralité envers le pouvoir spirituel était coutumière. Oh, il savait aussi pouvoir compter sur le soutien d'Agnès, l'épouse d'Eb de Charenton, celle-là même dont il assistait au mariage. Elle était très proche du primat d'Aquitaine et de l'archevêque de Bourges, Pierre de la Châtre, qui lui-même accordait son plein soutien à la nouvelle communauté et recevait le soutien du pape Eugène III. Certes, l'abbé n'ignorait pas qu'avec le temps, certains nobles et seigneurs prendraient ombrage de cette prospérité, et que des persécutions seraient peut-être à redouter. Mais sa joie de voir affluer les dons pour accroître en douceur et avec assurance la puissance et la richesse de l'abbaye était à peine entamée par la pensée qu'il ne verrait pas de son vivant l'apothéose de cette évolution et de cette construction. Les monastères étaient devenus experts en copies de manuscrits. Et l'abbé Robert avait planifié d'exploiter cette expérience dans l'art de l'écriture pour la consacrer à la création d'une gigantesque bibliothèque. Elle deviendrait la gardienne des connaissances révélées dans la clandestinité par les légatis, même si ce savoir devait remettre en cause les enseignements de leur église. Une science qu'il fallait centralisée à des fins de structuration, d'analyse, puis de conservation pour les générations futures, hors du devenir de l'abbaye qui ne serait qu'un outil temporel. Un devoir de transmission du savoir, avec toutes les déviations et interprétations fallacieuses qui finiraient par entacher cette connaissance, avant qu'elle ne retrouve sa pureté, quand la science viendrait à son secours. Robert transportait avec fierté le document apposé du sceau unique de la seigneurie de Charenton qui seul validait le don. Pour le protéger de la pluie, il l'avait glissé avec précaution dans un repli intérieur de sa tunique écrue, maculée de boue. Ses 11 compagnons étaient attablés. L'un d'eux lisait des psaumes pendant que les autres mangeaient en silence. Sur les murs irréguliers de leur réfectoire provisoire, les flammes qui dansaient dans la cheminée projetaient des ombres dont les formes tourmentées nourrissaient les imaginations les plus fertiles. Puis, la porte du réfectoire s'ouvrit avec fracas. Le grincement du bois se mélangea au son des trompes d'eau et des éclairs. La lecture s'interrompit et tous les visages se tournèrent vers l'entrée. Robert était revenu. Une carriole affrétée pour l'occasion depuis Charenton avait déposé le moine près du site. Robert tomba son vêtement de pluie avant d'intégrer la tablée. Chers frères, aujourd'hui est un grand jour. Jusqu'alors, nous occupions ces terres sans aucun titre de propriété, ne bénéficiant que de la tolérance des nobles. Béni soit ce jour, béni soit ce jour. Les biens qui nous avaient été promis par Sire Eb il y a 10 ans sont désormais nôtres. « Mais n'a-t-il rien oublié ?» manifesta un des moines. nous avons le nécessaire pour accueillir tous les privilégiés du Seigneur. Nous disposons des terres alentours, du bois, du droit de pacage, du bétail, du matériel agricole et bien entendu de l'eau par la rivière. Un des frères manifesta une autre forme d'inquiétude, au demeurant justifié. Mais frère, qu'en est-il du prieuré de la Selle? Ne vont-ils pas prendre ombrage de la générosité du Seigneur d'Eb à notre égard? Robert se montra rassurant. À nos frères de la Selle Bruère, Eb leur cède 3 hommes et leurs héritiers en dédommagement des dîmes qu'ils ne pourront plus recevoir. Et en ce qui nous concerne, nous pourrons dès demain aller voir nos frères pour poser la première pierre de notre église. J'espère que nous serons encore en vie pour l'admirer dans sa totalité, à la gloire de notre Dieu et Père. Et comme j'ai à cœur de savoir le chemin vers notre communauté, ouvert à tous ceux que le Seigneur a privilégiés. La porte claqua de nouveau. Sous l'embrasure, un homme se tenait immobile, trempé de la tête aux pieds. Ils le regardèrent tous, à peine intrigués, puis le visiteur se présenta. À Bourges, on murmure que vous accueillez les meneux de loup et le Legatus. Fin du chapitre 12 et fin de la lecture pour ce soir. Voilà, j'ai fini. C'était coriace, hein. C'était épais, c'était compact. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Allez, je vous le répète une fois de plus, le replay sera disponible dans quelques minutes sur la page Facebook Exilium. Tous les autres replays, les autres rediffusions, parlons français, sont déjà disponibles. Bientôt, le podcast MP3 sera disponible sur le site de la page officielle du livre Exilium. Je vous rajouterai tous ces liens un petit peu plus tard. Nous, on va se retrouver lundi. Avec la première partie du chapitre 13, où là, on revient dans notre 21e siècle. Nous allons retrouver Frédéric, nous allons retrouver le lycée technique déneigé. Je ne vous en dis pas plus. Le mardi, ce sera la deuxième partie, et que je ne dise pas de bêtises. Et le mercredi, voilà, il y aura une session supplémentaire qui ne sera pas une session de lecture, mais je vous annoncerai 2-3 choses par rapport à cette lecture. On fera une sorte de petite discussion jusqu'à 19h. Et ensuite, je prendrai congé de vous. Mais je ne vous quitterai pas ce soir sans vous avoir salué, bien que je l'ai fait déjà tout à l'heure. Marie-Madeleine, donc, que j'ai déjà salué, tout à l'heure. Toujours fidèle. Et Stéphane également, qui est revenu nous voir. Voilà, nous sommes en petit comité ce soir, mais je sais que certains reprennent la vidéo un peu plus tard. Je le vois au nombre de vues de la vidéo. Allez, il est vendredi. Regardez, il est 53. Je vous avais dit que c'était un petit chapitre, ce chapitre 12. Je vais vous libérer plus tôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, il va faire un petit peu plus frais. On aura 10 degrés de moins. Ça va faire du bien parce que la chaleur qui arrive d'un coup, c'est pas toujours simple. Enfin, moi, je n'aime pas trop. Je supporte pas facilement ça. Et je vous embrasse tous, donc portez-vous bien, et puis on se retrouve lundi, sans faute, à 18h30, pour la suite de la lecture du livre 1 d'Exilium. Je vous embrasse tous, au revoir.